Chapitre 6. Est-il dans la vie de l'homme une heure plus délicieuse que celle du premier rendez-vous donné? Renaissent-elles jamais les sensations cachées au fond du cœur et qui s'épanouissent alors? Retrouve-t-on les plaisirs sans nom que l'on a savourés en cherchant, comme fit Ernest de la Bruyère, et ses meilleurs rasoirs et ses plus belles chemises et des cols irréprochables et des vêtements les plus soignés? On déifie les choses associées à cette heure suprême. On fait alors à soi seul des poésies secrètes qui valent celles de la femme, et le jour où, de part et d'autre, on les devine, tout est envolé. N'en est-il pas de ces choses comme de la fleur de ces fruits sauvages, âcres et suaves à la fois, perdus au sein des forêts, la joie du soleil, sans doute, ou comme le dit Canalis dans le chant d'une jeune fille, la joie de la plante elle-même à qui l'ange des fleurs a permis de se voir. Ceci tend à rappeler que, semblable à beaucoup d'êtres pauvres pour qui la vie commence par le labour et par les soucis de la fortune, le modeste Labruyère n'avait pas encore été aimé. Venu la veille au soir, il s'était aussitôt couché comme une coquette afin d'effacer la fatigue du voyage, et il venait de faire une toilette méditée à son avantage, après avoir pris un bain, et peut-être est-ce là le lieu de placer son portrait en pied, ne fût-ce que pour justifier la dernière lettre que devait écrire Modeste. Né d'une bonne famille de Toulouse, alliée de loin à celle du ministre qui le prit sous sa protection, Ernest possède cet air comme il faut, où se révèle une éducation commencée au berceau, mais que l'habitude des affaires avait rendu grave sans effort, car la pédanterie et l'écueil de toute gravité prématurée. De taille ordinaire, il se recommande par une figure fine et douce, d'un ton chaud quoique sans coloration, et qu'il relevait alors par de petites moustaches et par une virgule à la Mazarin. Sans cette attestation virile, il eût trop ressemblé peut-être à une jeune fille déguisée, tant la coupe du visage et les lèvres sont mignardes, tant on est prêt d'attribuer à une femme ses dents d'un émail transparent et d'une régularité quasi postiche. Joignez à ses qualités féminines un parler doux comme la physionomie, doux comme des yeux bleus à paupières turques, et vous concevrez très bien que le ministre eût surnommé son jeune secrétaire particulier Mademoiselle de la Bruyère. Le front plein, pur, bien encadré de cheveux noirs abondants, semble rêveur et ne dément pas l'expression de la figure qui est entièrement mélancolique. La proéminence de l'arcade de l'œil, quoique très élégamment coupée, obombre le regard et ajoute encore à cette mélancolie par la tristesse physique, pour ainsi dire, que produisent les paupières quand elles sont trop abaissées sur la prunelle. Ce doute intime que nous traduisons par le mot « modestie » anime donc et les traits et la personne. Peut-être comprendra-t-on bien cet ensemble en faisant observer que la logique du dessin exigerait plus de longueur dans l'ovale de cette tête, plus d'espace entre le menton qui faiblit brusquement et le front trop diminué par la manière dont les cheveux sont plantés. Ainsi, la figure semble écrasée. Le travail avait déjà creusé son sillon entre les sourcils, un peu trop fourni et rapproché comme chez les gens jaloux. Quoique la Bruyère fût alors mince, il appartient à ce genre de tempérament qui, formé tard, prennent à 30 ans un embonpoint inattendu. Ce jeune homme eût assez bien représenté, pour les gens à qui l'histoire de France est familière, la royale et inconcevable figure de Louis XIII. Mélancolique modestie, sans cause connue, pâle sous la couronne, aimant les fatigues de la chasse et haïssant le travail, timide avec sa maîtresse au point de la respecter, indifférent jusqu'à laisser trancher la tête à son ami, et que le remords d'avoir vengé son père sur sa mère peut seul expliquer. Ou l'amelette catholique, ou quelque maladie incurable. Mais le ver rongeur qui blêmissait Louis XIII et détendait sa force était alors, chez Ernest, simple défaillance de soi-même, la timidité de l'homme à qui nulle femme n'a dit « comme je t'aime » et surtout le dévouement inutile. Après avoir entendu le glas d'une monarchie dans la chute d'un ministère, ce pauvre garçon avait trouvé dans Canalis un rocher caché sous d'élégantes mousses. Il cherchait donc une domination à aimer. Et cette inquiétude du caniche en quête d'un maître lui donnait l'air du roi qui trouve le sien. Ces nuages, ces sentiments, cette teinte de souffrance répandue sur cette physionomie la rendaient beaucoup plus belle que ne le croyait le référendaire, assez fâché de s'entendre classer par les femmes dans le genre des beaux ténébreux. Genre passé de mode par un temps où chacun voudrait pouvoir garder pour lui seul les trompettes de l'annonce. Le défiant Ernest avait donc demandé tous ses prestiges aux vêtements alors à la mode. Il mit pour cette entrevue, où tout dépendait du premier regard, un pantalon noir et des bottes soigneusement cirées, un gilet couleur soufre qui laissait voir une chemise d'une finesse remarquable et boutonnée d'opale, une cravate noire, une petite redingote bleue ornée de la rosette et qui semblait collée sur le dos et à la taille par un procédé nouveau. Portant de jolis gants de chevreau, couleur bronze florentin, il tenait de la main gauche une petite canne et son chapeau, par un geste assez Louis XIVien, montrant ainsi, comme le lieu l'exigeait, sa chevelure massée avec art et d'où la lumière produisait des luisants satinés. Campé dès le commencement de la messe sous le porche, il examina l'église en regardant tous les chrétiens, mais plus particulièrement les chrétiennes, qui trempaient leurs doigts dans l'eau sainte. Une voix intérieure cria « Le voilà !» à Modeste quand elle arriva. Cette redingote et cette tournure essentiellement parisienne, cette rosette, ces gants, cette canne, le parfum des cheveux, rien n'était du Havre. Aussi, quand la bruyère se retourna pour examiner la grande et fière notaresse, le petit notaire et le paquet, expression consacrée entre femmes, sous la forme duquel Modeste s'était mise, la pauvre enfant, quoique bien préparée, reçut-elle un coup violent au cœur en voyant cette poétique figure illuminée en plein jour par le jour de la porte. Oh, elle ne pouvait pas se tromper. Une petite rose blanche cachait presque la rosette. Ernest reconnaîtrait-il son inconnue, affublée d'un vieux chapeau garni d'un voile mis en double? Modeste eut si peur de la seconde vue de l'amour qu'elle se fit une démarche de vieille femme. « Ma femme, dit le petit Latournelle en allant à sa place, ce monsieur n'est pas du Havre. »« Oh, il vient tant d'étrangers, répondit la notaresse. » « Mais les étrangers, dit le notaire, viennent-ils jamais voir notre église, qui n'est pas âgée de plus de 2 siècles ?» Ernest resta pendant toute la messe à la porte, sans avoir vu parmi les femmes personne qui réalisât ses espérances. Modeste, elle, ne put maîtriser son tremblement que vers la fin du service. Elle éprouva des joies qu'elle seule pouvait dépeindre. Elle entendit enfin sur les dalles le bruit d'un pas d'homme comme il faut. Car la messe était dite, Ernest faisait le tour de l'église où il ne se trouvait plus que les dilettantes ties de la dévotion qui devinrent l'objet d'une savante et perspicace analyse. Ernest remarqua le tremblement excessif du paroissien dans les mains de la personne voilée à son passage et comme elle était la seule qui cacha sa figure, il eut des soupçons que confirma la mise de Modeste, étudiée avec un soin d'amant curieux, et il sortit quand Madame Latournelle quitta l'église. Il la suivit à une distance honnête et la vit rentrant avec Modeste rue Royale, où selon son habitude Mademoiselle Mignon attendait l'heure des vêpres. Après avoir toisé la maison ornée de panonceaux, Ernest demanda le nom du notaire à un passant qui lui nomma presque orgueilleusement M. Latournelle, le premier notaire du Havre. Quand il longea la rue Royale pour essayer de plonger dans l'intérieur de la maison, Modeste aperçut son amant. Alors elle se dit si malade qu'elle n'alla pas à vêpres et Madame Latournelle lui tint compagnie. Ainsi, le pauvre Ernest en fut pour ses frais de croisière. Il n'osa pas flâner à Ingouville, il se fit un point d'honneur d'obéir, et revint à Paris après avoir écrit, en attendant le départ de la voiture, une lettre que François Cochet devait recevoir le lendemain, timbrée du Havre. Tous les dimanches, M. et Mme Latournelle dînaient au chalet où il reconduisait Modeste après vêpres. Aussi, dès que la jeune malade se trouva mieux, remontèrent-ils à Ingouville, accompagnés de Bouchard, et l'heureuse Modeste fit alors une charmante toilette. Quand elle descendit pour dîner, elle oublia son déguisement du matin, sa prétendue fluxion, et fredonna. Rien ne dort plus, mon cœur, la violette élève à Dieu l'encens de son réveil. Butcha ressentit un léger frisson à l'aspect de Modeste, tant elle lui parut changée, car les ailes de l'amour étaient comme attachées à ses épaules. Elle avait l'air d'une sylphide, elle montrait sur ses joues le divin coloris du plaisir. De qui donc sont les paroles sur lesquelles tu as fait une si jolie musique? Demanda Madame Mignon à sa fille. De Canalis, maman, répondit-elle en devenant l'instant du plus beau cramoisi depuis le cou jusqu'au front. Canalis! S'écria le nain à qui l'accent de Modeste et sa rougeur apprirent la seule chose qu'il ignora encore du secret. Lui, le grand poète, faire des romances? Bon, c'est, dit-elle de simple stance, sur lequel j'ai osé plaquer des réminiscences d'airs allemands. Non, 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 reprit Madame Mignon, c'est de la musique à toi, ma fille. Modeste, se sentant devenir de plus en plus cramoisie, sortit en entraînant Butcha dans le petit jardin. Vous pouvez, lui dit-elle à voix basse, me rendre un grand service. Dumay fait le discret avec ma mère et avec moi sur la fortune que mon père rapporte. Je voudrais savoir ce qui en est. Dumay, dans le temps, n'a-t-il pas envoyé 500 et quelques 1000 francs à papa? Mon père n'est pas homme à s'absenter pendant 4 ans pour seulement doubler ses capitaux. Or, il revient sur un navire à lui, et la part qu'il a faite à Dumay s'élève à près de 600 000 francs. Bon, c'est pas la peine de questionner Dumay, dit Butcha. Monsieur votre père avait perdu, comme vous savez, 4 millions au moment de son départ. Il les a sans doute regagnés, mais il aurait dû donner à Dumay 10% de ses bénéfices. Et par la fortune que le digne Breton avoue avoir, nous supposons, mon patron et moi, que celle du colonel monte à 6 ou 7 millions. « Oh, mon père !» dit Modeste en se croisant les bras sur la poitrine et levant les yeux au ciel, « tu m'auras donné 2 fois la vie. »« Ah, mademoiselle !» dit Butcha, « vous aimez un poète. Ce genre d'homme est plus ou moins Narcisse. Saura-t-il bien vous aimer ? Un ouvrier en phrase occupé d'ajuster des mots est bien ennuyeux. Un poète, mademoiselle, n'est pas plus la poésie que la graine n'est la fleur. » « Mais Butcha, je n'ai jamais vu d'homme si beau. La beauté, mademoiselle, est un voile qui sert souvent à cacher bien des imperfections. Mais c'est le cœur le plus angélique du ciel. Fasse Dieu que vous ayez raison, dit le nain en joignant les mains, et soyez heureuse. Cet homme aura, comme vous, un serviteur dans Jean Butcha. Oh, je ne serai plus notaire alors. Je vais me jeter dans l'étude, dans les sciences. Et pourquoi? Eh, mademoiselle, pour élever vos enfants, si vous daignez me permettre d'être leur précepteur. Ah, si vous vouliez agréer un conseil, tenez, laissez-moi faire. Je saurais pénétrer la vie et les mœurs de cet homme, découvrir s'il est bon, s'il est colère, s'il est doux, s'il aura ce respect que vous venez mériter, et s'il est capable d'aimer absolument, en vous préférant à tout, même à son talent. « Mais qu'est-ce que cela fait si je l'aime ?» dit-elle naïvement. « Eh oui, c'est vrai !» s'écria le bossu. En ce moment, Madame Mignon disait à ses amis, « Ma fille a vu ce matin celui qu'elle aime. »
« Ah,
ce serait donc ce gilet soufre qui t'a tant intrigué, la tournelle, s'écria la notaresse. Oh, ce jeune homme avait une jolie petite rose blanche à sa boutonnière. Ah, me dit la mère, mais le signe de reconnaissance. Oh, il avait repris la notaresse, la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Oh, c'est un homme charmant, mais nous nous trompons. Modeste n'a pas élevé son voile, elle était facotée comme une pauvresse et... Eh, dit l'auteur, elle se disait malade, mais elle vient noter ça, Mariette, et se porte comme un charme. C'est incompréhensible, s'écria Dumay. Hélas, c'est maintenant clair comme le jour, dit le notaire. Mon enfant, dit Madame Mignon à Modeste, qui rentra suivi de Butcha, n'as-tu pas vu ce matin à l'église un petit jeune homme bien mis qui portait une rose blanche à sa boutonnière décorée? Ben, je l'ai vu, dit Butcha vivement, en apercevant à l'attention de chacun le piège où Modeste pouvait tomber. C'est Gredet, le fameux architecte avec qui la ville est en marché pour la restauration de l'église. Il est venu de Paris, je l'ai trouvé ce matin examinant l'extérieur quand je suis parti pour cette adresse. Ah, c'est un architecte, il m'a bien intrigué, dit Modeste, à qui le nain avait ainsi donné le temps de se remettre. Dumay regarda Butcha de travers. Modeste, averti, se composa un maintien impénétrable. La défiance de Dumay fut excitée au plus haut point. Il se proposa d'aller le lendemain à la mairie afin de savoir si l'architecte attendu s'était en effet montré au Havre. De son côté, Butcha, très inquiet de l'avenir de Modeste, prit le parti d'aller à Paris espionner Canalis. Gobenheim vint faire le visir, whist, et comprima par sa présence tous les sentiments en fermentation. Modeste attendait avec une sorte d'impatience l'heure du coucher de sa mère. Elle voulait écrire, elle n'écrivait jamais que pendant la nuit, et voici la lettre que lui dicta l'amour quand elle crut tout le monde endormi. À Monsieur de Canalis. Ah, mon ami bien-aimé, quels atroces mensonges que vos portraits exposés aux vitres des marchands de gravures! Et moi qui faisais mon bonheur de cette horrible lithographie. Je suis honteuse d'aimer un homme si beau. Non, je ne saurais imaginer que les Parisiennes soient assez stupides pour ne pas avoir vu tout ce que vous étiez leur rêve accompli. Vous délaissez, vous sans amour. Oh non, je ne crois plus un mot de ce que vous m'avez écrit sur votre vie obscure et travailleuse, sur votre dévouement à une idole cherchée en vain jusqu'aujourd'hui. Vous avez été trop aimé, monsieur. Votre front pâle et suave comme la fleur d'un magnolia le dit assez, et je serai malheureuse. Que suis-je, moi, maintenant? Ah, pourquoi m'avoir appelé à la vie? En un moment, j'ai senti que ma passante pesante enveloppe me quittait. Mon âme a brisé le cristal qui la retenait captive. Elle a circulé dans mes veines. Enfin, le froid silence des choses a cessé tout à coup pour moi. Tout dans la nature m'a parlé. La vieille église m'a semblé lumineuse. Ses voûtes brillant d'or et d'azur comme celles d'une cathédrale italienne ont scintillé sur ma tête. Les sons mélodieux que les anges chantent aux martyrs et qui leur font oublier les souffrances ont accompagné l'orgue. Les horribles pavés du Havre m'ont paru comme un chemin fleuri. J'ai reconnu dans la mer une vieille amie dont le langage plein de sympathie pour moi ne s'était pas encore assez connu. J'ai vu clairement que les roses de mon jardin et de ma serre m'adorent depuis longtemps et me disaient tout bas d'aimer. Elles ont souri toutes à mon retour de l'église. Et j'ai enfin entendu votre nom de Melchior, murmuré par les cloches des fleurs. Je l'ai lu, écrit sur les nuages. Oui. Me voilà vivante grâce à toi, poète plus beau que ce froid et compensé leur Byron, dont le visage est aussi terne que le climat anglais. Épousé par un seul de tes regards, d'Orient qui a percé mon voile noir, tu m'as jeté ton sang au cœur, il m'a rendu brûlante de la tête aux pieds. Ah, nous ne sentons pas la vie aussi quand notre mère nous la donne. Un coup que tu recevrais m'atteindrait au moment même de mon existence, ne s'explique plus que par ta pensée. Je sais à quoi sert la divine harmonie de la musique. Elle fut inventée par les anges pour exprimer l'amour. Avoir du génie et être beau, mon Melchior, c'est trop. À sa naissance, un homme devrait opter. Mais quand je songe au trésor de tendresse et d'affection que vous m'avez montré depuis un mois, surtout, je me demande si je rêve. Non, vous me cachiez un mystère. Mais quelle femme vous cédera sans mourir? Ah, la jalousie est entrée dans mon cœur avec un amour auquel je ne croyais pas. Pouvais-je imaginer un pareil incendie? Quelle inconcevable et nouvelle fantaisie! Je te voudrais laid maintenant. Quelle folie ai-je faite en rentrant? Tous les dahlias jeunes m'ont rappelé votre joli gilet. Toutes les roses blanches ont été mes amies et je les ai saluées par un regard qui vous appartenait comme tout moi. La couleur des gants qui moulaient les mains du gentilhomme, tout jusqu'au bruit des pas sur les dalles, tout se représente à mon souvenir avec tant de fidélité que dans 60 ans je reverrai les moindres choses de cette fête, telles que la couleur particulière de l'air, le reflet du soleil qui miroitait sur un pilier, et j'entendrai la prière que vous avez interrompue. Je respirerai l'encens de l'autel et je croirai sentir au-dessus de nos têtes les mains du curé qui nous a bénis tous deux au moment où tu passais en donnant sa dernière bénédiction. Ce bon abbé Marcellin nous a mariés déjà. Le plaisir surhumain de ressentir ce monde nouveau d'émotions inattendues ne peut être égalé que par la joie que j'éprouve à vous les dire, à renvoyer tout mon bonheur à celui qui le verse dans mon âme avec la libéralité d'un soleil. Aussi plus de voile, mon bien-aimé, venez, oh revenez promptement. Je me démasque avec plaisir. Vous avez dû entendre sans doute parler de la maison Mignon du Havre. Eh bien, j'en suis, par l'effet d'un irréparable malheur, l'unique héritière. Ne faites donc pas fi de nous, descendants d'un preux de l'Auvergne. Les armes des Mignons, de la Bastille, ne déshonorent pas celles de Canalis. Nous portons de gueules à une bande de sable chargée de 4 besants d'or et à chaque quartier une croix d'or patriarcale avec un chapeau de cardinal pour cimier et des fiocchi pour support. Cher, je serai fidèle à notre devise « Una fides, unus dominus », la vraie foi et un seul maître. Peut-être, mon ami, trouverez-vous quelques sarcasmes dans mon nom, d'après tout ce que je viens de faire et ce que je vous avoue ici. Je me nomme Modeste, ainsi je ne vous ai jamais trompé en signant Odeste M. Je ne vous ai point abusé davantage en vous parlant de ma fortune. Elle atteindra, je crois, à ce chiffre qui vous a rendu si vertueux. Et je sais si bien que pour vous la fortune est une considération sans importance, que je vous en parle avec simplicité. Néanmoins, laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de pouvoir donner à notre bonheur la liberté d'action et de mouvement que procure la fortune, de pouvoir dire « Allons !» quand la fantaisie de voir un pays nous prendra, de voler dans une bonne calèche, assise à côté l'un de l'autre, sans nul souci d'argent, enfin heureuse de pouvoir vous donner le droit de dire au roi « J'ai la fortune que vous voulez à vos pères. » En ceci, Modeste Mignon vous fera bonne à quelque chose, et son or aura la plus noble des destinations. Quant à votre servante, vous l'avez vue une fois, oui, à sa fenêtre, en déshabillé. Oui, la blonde fille d'Ève, la blonde, était votre inconnue. Mais combien la Modeste d'aujourd'hui ressemble peu à celle de ce jour-là. L'une était dans un linceul et l'autre, vous l'ai-je bien dit, a reçu de la vie, de la vie. L'amour pur et permis, l'amour que mon père, enfin revenu de voyage et riche, m'autorisera ?» m'a relevé de sa main à la fois enfantine et puissante du fond de cette tombe où je dormais. Vous m'avez éveillé comme le soleil éveille les fleurs. Le regard de votre aimé n'est plus le regard de cette petite modeste si hardie. Oh non, il est confus, il entrevoit le bonheur et il se voile sous de chastes paupières. Aujourd'hui, j'ai peur de ne pas mériter mon sort. Le roi s'est montré dans sa gloire. Mon seigneur n'a plus qu'une sujette qui lui demande pardon de ses libertés grandes comme le joueur au dé pipé après avoir escroqué le chevalier de Grammont. Va, poète chéri, je serai ta mignon, mais une mignon plus heureuse que celle de Goethe, car tu me laisseras dans ma patrie, n'est-ce pas, dans ton cœur. Au moment où je trace ce vœu de fiancé, un rossignol du parc Vilquin vient de me répondre pour toi. Oh, dis-moi bien vite que le rossignol, en filant sa note si pure, si nette, si pleine, qui m'a rempli le cœur de joie et d'amour comme une annonciation, n'a pas menti. Mon père passera par Paris, il viendra de Marseille. La maison Mongenod, dont il a été le correspondant, saura son adresse. Allez le voir, mon Melchior aimé. Dites-lui que vous m'aimez, et n'essayez pas de lui dire combien je vous aime. Faites que ce soit toujours un secret entre nous et Dieu. Moi, cher adoré, je vais tout dire à ma mère. La fille des Valnot, Stahlbartenstil, me donnera raison par des caresses. Elle sera tout heureuse de notre poème si secret, si romanesque, humain et divin tout ensemble. Vous avez l'aveu de la fille. Ayez le consentement du comte de la Bastille, père de votre Modeste. Post-scriptum, surtout ne venez pas au Havre sans avoir obtenu l'agrément de mon père. Et si vous m'aimez, vous saurez le trouver à son passage à Paris. « Mais que faites-vous donc à cette heure, mademoiselle Modeste ?» demanda Dumay. « Oh, j'ai cru à mon père, » répondit-elle au vieux soldat. « N'avez-vous pas dit que vous partiez demain ?» Dumay n'eut rien à répondre. Il rentra se coucher et Modeste se mit à écrire une longue lettre à son père. Le lendemain, Françoise Cochet, tout effrayé en voyant le timbre du Havre fin au chalet remettre à sa jeune maîtresse la lettre suivante en emportant celle que Modeste avait écrite. « La mademoiselle Odeste M. Mon cœur m'a dit que vous étiez la femme si soigneusement voilée et déguisée, placée entre monsieur et madame Latournelle, qui n'ont qu'un enfant, un fils. Ah, cher aimé! Si vous êtes dans une condition modeste, sans éclat, sans illustration, sans fortune même, vous ne savez pas quelle serait ma joie. Vous devez me connaître maintenant, pourquoi ne me direz-vous pas la vérité? Moi, je ne suis poète que par l'amour, par le cœur, par vous. Oh, quelle puissance d'affection ne me faut-il pas pour rester ici, dans cet hôtel de Normandie, et ne pas monter à Ingouville que je vois de mes fenêtres. M'aimerez-vous comme je vous aime? S'en aller du Havre à Paris dans cette incertitude, n'est-ce pas être puni d'aimer autant que si on avait commis un crime? J'ai obéi aveuglément. Oh, que j'ai promptement une lettre, car si vous avez été mystérieuse, je vous ai rendu mystère pour mystère. Et je dois enfin jeter le masque de l'incognito, vous dire le poète que je suis et abdiquer la gloire qui me fut prêtée. Cette lettre inquiéta vivement Modeste. Elle ne put reprendre la sienne que Françoise avait déjà mise à la poste quand elle chercha la signification des dernières lignes en les relisant. Mais elle monta chez elle et fit une réponse où elle demandait des explications. Pendant ces petits événements, il s'en passait d'aussi petits au Havre et qui devaient faire oublier cette inquiétude à Modeste. Dumay, descendu de bonne heure en ville, y sut promptement que nul architecte n'était arrivé l'avant-veille. Furieux du mensonge de Butcha, qui révélait une complicité dont il lui fallait raison, il courut de la mairie chez les Latournelle. Où est donc votre sieur Butcha ? Demanda-t-il à son ami le notaire en ne trouvant pas le clerc dans l'étude. Oh, mais Butcha, mon cher, il est sur la route de Paris. La vapeur l'emmène. Il a rencontré ce matin, ou de grand matin, sur le port un matelot qui lui a dit que son père, ce matelot suédois, est riche. Alors le père de Butcha serait allé dans les Indes. Il aurait servi à prince les mandrates et il est à Paris. Des contes, des infamies, des farces. Oh, je trouverai ce damné bossu. Je vais alors exprès à Paris pour ça, dégria Dumay. Butcha nous trompe. Il sait quelque chose de modeste. Elle ne nous a rien dit. S'il trempe là-dedans, oh, il ne sera jamais notaire. Je le rendrai à sa mère à la boue en le... Voyons, mon ami, ne pardons jamais personne sans procès, répliqua la Tournelle, effrayée de l'exaspération de Dumay. Après avoir expliqué sur quoi ses soupçons étaient fondés, Dumay pria Madame Latournelle de tenir compagnie à Modeste au chalet pendant son absence. « Vous trouverez le colonel à Paris, dit le notaire. Au mouvement des ports, ce matin dans le journal du commerce, il y a sous la rubrique de Marseille. Tenez, voyez, dit-il en présentant la feuille. Le Bettina Mignon, capitaine Mignon, entré du 6 octobre. Et nous sommes aujourd'hui le 17. Tout le Havre, c'est en ce moment l'arrivée du patron. Dumay pria Guggenheim de se passer de lui désormais. Il remonta sur le champ au chalet, et il entrait au moment où Modeste venait de cacheter la lettre à son père et celle à Canalis. Hormis l'adresse, ces deux lettres étaient exactement pareilles comme enveloppe et comme volume. Modeste crut avoir posé celle de son père sur celle de son Melchior, et elle avait fait tout le contraire. Cette erreur, si commune dans le cours des petites choses de la vie, occasionna la découverte de son secret par sa mère et par Dumay. Le lieutenant parlait avec chaleur à Madame Mignon dans le salon, en lui confiant les nouvelles craintes engendrées par la duplicité de Modeste et par la complicité de Butcha. « Allez, madame, s'écriait-il, c'est un serpent que nous avons réchauffé dans notre sein. Il n'y a pas de place pour une âme chez ces bouts d'hommes-là. » Modeste mit dans la poche de son tablier la lettre pour son père, en croyant y mettre celle destinée à son amant, et descendit avec celle de Canalis à la main, en entendant Dumay parler de son départ immédiat pour Paris. « Mais qu'avez-vous donc contre mon pauvre nain mystérieux, et pourquoi criez-vous ? » dit Modeste en se montrant à la porte du salon. « Mais Butcha, mademoiselle, est partie pour Paris ce matin, et vous savez sans doute pourquoi. Ce sera pour y aller intriguer avec ce soi-disant petit architecte à gilet jaune soufre qui, par malheur pour le mensonge du bossu, n'est pas encore arrivé. » Modeste fut saisie, et elle devina que le nain était parti pour procéder à une enquête sur les mœurs de Canalis. Elle pâlit et s'assit. Bon, « je le rejoindrai, je le trouverai, dit Dumay. « C'est sans doute la lettre pour monsieur votre père, dit-il en tendant la main. Je l'enverrai chez mon genou, pourvu que nous ne nous croisions pas en route, mon colonel et moi. » Modeste donna la lettre. Le petit Dumay, qui lisait sans lunettes, regarda machinalement l'adresse. « Monsieur le baron de Canalis, rue de Paradis, Poissonnière, numéro 29 ?» s'écria Dumay. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?»« Oh, ma fille, voilà l'homme que tu aimes !» s'écria Madame Mignon. « Les stores sur lesquels tu as fait ta musique sont de lui. » « Ah oui, c'est son portrait que vous avez là-haut, encadré, » dit Dumay. « Rendez-moi cette lettre, monsieur Dumay, » dit Modeste, qui se dressa comme une lionne, défendait ses petits. « Oh, la voici, mademoiselle, » répondit le lieutenant. Modeste remit la lettre dans son corset et tendit à Dumay celle destinée à son père. « Oh, je sais ce dont vous êtes capable, Dumay, » dit-elle. « Mais si vous faites un seul pas vers monsieur Canalis, j'en fais en dehors de la maison, je ne reviendrai jamais. » Mais vous allez tuer votre mère, mademoiselle, répondit Dumay, qui sortit et appela sa femme. La pauvre mère s'était évanouie, atteinte au cœur par la fatale phrase de Domeste. Adieu, ma femme, dit le Brenon en embrassant la petite américaine. Sauve la mère, je vais aller sauver la fille. Il laissa Modeste et Madame Dumay près de Madame Mignon, fit ses préparatifs de départ en quelques instants et descendit au Havre. Une heure après, il voyageait en poste avec cette rapidité que la passion ou la spéculation imprime seules aux roues. Bientôt, rappelé à la vie par les soins de Modeste, Madame Mignon remonta chez elle sur le bras de sa fille, à qui, pour tout reproche, elle dit quand elles furent seules, « Mais malheureuse enfant, qu'as-tu fait? Pourquoi te cacher de moi? Suis-je donc si sévère ?»« Mais j'allais tout te dire naturellement, » répondit la jeune fille en pleurs. Elle raconta tout à sa mère, elle lui lut les lettres et les réponses, elle effeuilla dans le cœur de la bonne Allemande, pétale à pétale, la rose de son poème, elle y passa la moitié de la journée. Quand la confidence fut achevée, quand elle aperçut presque un sourire sur les lèvres de la trop indulgente aveugle, elle se jeta sur elle tout en pleurs. « Oh, ma mère, dit-elle au milieu de ses sanglots, vous, dont le cœur, tout or et toute poésie, est comme un vaste élection pétri par Dieu pour contenir l'amour pur, unique et céleste qui remplit toute la vie, vous que je veux imiter en aimant au monde que mon mari. Vous devez comprendre combien sont amères les larmes que je répands en ce moment et qui mouillent vos mains. Ce papillon, elle dit après, cette double et belle âme élevée avec des soins maternels par votre fille, mon amour, mon saint amour, ce mystère animé, vivant, tombant des mains vulgaires qui vont dénichérer ses oreilles et ses voiles sous le triste prétexte de m'éclairer, de savoir si le génie est correct comme un banquier, si mon Melchior est capable d'amasser des rentes, s'il a quelque passion à dénouer, s'il n'est pas coupable aux yeux des bourgeois de quelque épisode de jeunesse qui maintenant est un autre amour, ce qu'est un nuage au soleil. Mais que vont-ils faire? Tiens, voilà ma main, j'ai la fièvre, il me faut mourir. Modeste, prise d'un frisson mortel, fut obligée de se mettre au lit et donna les plus vives inquiétudes à sa mère, à Madame Latournelle et à Madame Dumay, qui la gardèrent pendant le voyage du lieutenant à Paris, où la logique des événements transporta le drame pour un instant. Les gens véritablement modestes, comme l'est Ernest de la Brière, mais surtout ceux qui, sachant leur valeur, ne sont ni aimés ni appréciés, comprendront les jouissances infinies dans lesquelles le référendaire se complut en lisant la lettre de Modeste. Après l'avoir trouvé spirituel et grand par l'âme, sa jeune, sa naïve et rusée maîtresse le trouvait beau. Cette flatterie est la flatterie suprême. Et pourquoi ? La beauté, sans doute, est la signature du maître sur l'œuvre où il a emprunt son âme. C'est la divinité qui se manifeste. Et la voir là où elle n'est pas, la créer par la puissance d'un regard enchanté, n'est-ce point le dernier mot de l'amour? Aussi le pauvre référendaire, s'écria-t-il dans un ravissement d'auteur applaudi, « Enfin je suis aimé !» Quand une femme, courtisane ou jeune fille, a laissé échapper cette phrase, « Tu es beau !» fut sa mensonge. Si un homme ouvre son crâne épais au subtil poison de ce mot, il est attaché par des liens éternels à cette menteuse charmante, à cette femme vraie ou abusée. Elle devient alors son monde, il a soif de cette attestation. Il ne s'en lassera jamais, fut-il prince. Et Ernest se promena fièrement dans sa chambre. Il se mit de trois quarts, de profil, de face, devant la glace. Il essaya de se critiquer. Mais une voix diaboliquement persuasive lui disait « Modeste a raison. » Et il revint à la lettre, il la relut, il vit sa blonde céleste, il lui parla. Puis, au milieu de son extase, il fut atteint par cette atroce pensée. Oui, mais elle me croit qu'Annalis, et elle est millionnaire. Tout son bonheur tomba, comme tombe un homard qui est parvenu somnambuliquement sur la cime d'un toit, entend une voix avance et s'écrase sur le pavé. Mais sans l'auréole de la gloire, je serais laid, s'écria-t-il. Dans quelle situation affreuse me suis-je mis? La Bruyère était trop l'homme de ses lettres, il était trop le cœur noble et pur qu'il avait laissé voir, pour hésiter à la voix de l'honneur. Il résolut aussitôt d'aller tout avouer au père de Modeste, s'il était à Paris, et de mettre Canalis au fait du dénouement sérieux de leur plaisanterie parisienne. Pour ce délicat jeune homme, l'énormité de la fortune fut une raison déterminante. Il ne voulut pas surtout être soupçonné d'avoir fait servir à l'escroquerie d'une dot les entraînements de cette correspondance si sincère de son côté. Les larmes lui vinrent aux yeux pendant qu'il allait de chez lui rue Chantereine, chez le banquier Mongenod, dont la fortune, les alliances et les relations étaient en partie l'ouvrage du ministre, son protecteur à lui. Au moment où la Bruyère consultait le chef de la maison Mongenod et prenait toutes les informations que nécessitait son étrange position, il se passa chez Canalis une scène que le brusque départ de l'ancien lieutenant peut faire prévoir. En vrai soldat de l'école impériale, Dumais, dont le sang breton avait bouillonné pendant le voyage, se représentait un poète comme un drôle sans conséquence, un farceur à refrain, logé dans une mansarde, vêtu de drap noir blanchi sous toutes les coutures, dont les bottes ont quelquefois des semelles, dont le linge est anonyme, qui se rince le nez avec les doigts, ayant enfin toujours l'air de tomber de la lune, quand il ne griffonne pas à la manière de Butscha. Mais l'ébullition qui grondait dans sa cervelle et dans son cœur reçut comme une application d'eau froide quand il entra dans le joli hôtel habité par le poète, quand il vit dans la cour un valet nettoyant une voiture, quand il aperçut dans une magnifique salle à manger un valet vêtu comme un banquier et à qui le groom l'avait adressé, lequel lui répondit en le toisant que monsieur le baron n'était pas visible. « Il y a, dit-il en finissant, séance pour monsieur le baron au Conseil d'État aujourd'hui. » Mais suis-je bien ici, dit Dumais, chez monsieur Canalis, auteur de quelques poésies? Oui, monsieur le baron de Canalis, répondit le baron de chambre, est bien le grand poète dont vous parlez, mais il est aussi maître des requêtes au Conseil d'État et attaché au ministère des Affaires étrangères. Dumais, qui venait pour souffleter un peu âcre, selon son expression méprisante, trouvait un haut fonctionnaire de l'État. Le salon où il attendit, remarquable par sa magnificence, offrit à ses méditations la brochette de croix qui brille sur l'habit noir de Canalis, laissée sur une chaise par le valet de chambre. Bientôt, ses yeux furent attirés par l'éclat et la façon d'une coupe en vermeil, où ces mots, donnés par Madame, le frappèrent. Puis en regard, sur un socle, il vit un vase de porcelaine de Sèvres sur lequel était gravé « Donné par Madame la Dauphine ». Ces avertissements muets firent entrer Dumais dans son bon sens, pendant que le valet de chambre demandait à son maître s'il voulait recevoir un inconnu venu tout exprès du Havre pour le voir, un nommé Dumais. « Qu'est-ce ? » dit Canalis. « Un homme propre, décoré. » Sur un signe d'assentiment, le valet de chambre sortit et revint. Il annonça « Monsieur Dumais !» Quand il s'entendit annoncer, quand il fut devant Canalis, au milieu d'un cabinet aussi riche qu'élégant, les pieds sur un tapis tout aussi beau que le plus beau de la maison Mignon, et qu'il reçut le regard apprêté du poète qui jouait avec les glands de sa somptueuse robe de chambre, Dumais fut si complètement interdit qu'il se laissa interpeller par le grand homme. « À quoi dois-je l'heure de votre visite, monsieur ? Monsieur, dit Dumay, qui resta debout. Oh, si vous en avez pour longtemps, fit Canalis en interrompant, je vous prierai de vous asseoir. Et Canalis se plongea dans son fauteuil à la Voltaire, se croisa les jambes, éleva la supérieure la dandinante à la hauteur de l'œil, regarda fixement Dumay, qui se trouva, selon son expression soldatesque, entièrement mécanisé. « Je vous écoute, monsieur, » dit le poète, « mes moments sont précieux, le ministre m'attend. »« Monsieur, » reprit Dumay, « je serai bref. Vous avez séduit, je ne sais comment, une jeune demoiselle du Havre, belle et riche, le dernier, le seul espoir de deux nobles familles, et je vais vous demander quelles sont vos intentions. » Canalis, qui depuis 3 mois s'occupait d'affaires graves, qui voulait être fait commandeur de la Légion d'honneur et devenir ministre dans une cour d'Allemagne, avait complètement oublié la lettre du Havre. « Moi ? » s'écria-t-il. « Oui, vous ? » répéta Dumay. « Monsieur, » répondit Canalis en souriant, « oh, je ne sais pas plus que ce que vous voulez me dire que si vous me parliez hébreu. Moi, séduire une jeune fille, moi qui... » Et un soupir, superbe sourire, se dessina sur les lèvres de Canalis. « Allons donc, monsieur, je ne suis pas assez enfant pour m'amuser à voler un petit fruit sauvage, quand j'ai de beaux et bons vergers où mûrissent les plus belles pêches du monde. Tout Paris sait où mes affections sont placées. Qu'il y ait au Havre une jeune fille prise de quelque admiration dont je ne suis pas digne, pour les vers que j'ai faits, mon cher monsieur, cela ne m'étonnerait pas, rien de plus ordinaire. Tenez, voyez, regardez ce beau coffre d'ébène incrusté de nacre et garni de fer travaillé comme de la dentelle. Ce coffre vient du pape Léon X et il me fut donné par la duchesse de Chaulieu qui le tenait du roi d'Espagne. Je l'ai destiné à contenir toutes les lettres que je reçois de toutes les parties de l'Europe, de femmes ou de jeunes personnes inconnues. J'ai le plus profond respect pour ces bouquets de fleurs, coupés à même l'âme, envoyés dans un moment d'exaltation vraiment respectable. Oui, pour moi, l'élan d'un cœur est une noble et sublime chose. D'autres dérailleurs roulent ces lettres pour en allumer leurs cigares ou les donnent à leurs femmes qui s'en font des papillotes. Mais moi, qui suis garçon, monsieur, je suis trop délicat pour ne pas conserver ces offrandes si naïves, si désintéressées, dans une espèce de tabernacle. Enfin, je les recueille avec une sorte de vénération. Et à ma mort, je les ferai brûler sous mes yeux. Tant pis pour ceux qui me trouveront ridicule. Que voulez-vous? J'ai de la reconnaissance. Et ces témoignages-là m'aident à supporter les critiques, les ennuis de la vie littéraire. Quand je reçois dans le dos l'arquebusade d'un ennemi embusqué dans un journal, je regarde cette cassette et je me dis... Il est, ça et là, quelques âmes dont les blessures ont été guéries, ou amusées, ou pensées par moi. Cette poésie, débitée avec le talent d'un grand acteur, pétrifia le petit caissier, dont les yeux s'agrandissaient et dont l'étonnement amusa le grand poète. « Pour vous, » dit ce paon qui faisait la roue, « et par égard pour une position que j'apprécie, je vous offre d'ouvrir ce trésor, vous verrez en chercher votre jeune fille. Mais je sais mon compte, je retiens les noms. Et vous êtes dans une erreur que... Et voilà donc ce que devient dans ce gouffre de Paris un pauvre enfant, s'écria Dumay, l'amour de ses parents, la joie de ses amis, l'espérance de tous, caressé par tous, l'orgueil d'une maison et à qui 6 personnes dévouées font de leur cœur et de leur fortune un rempart contre tout malheur. » Et Dumay reprit après une pause. « Tenez, monsieur, vous êtes un grand poète et je ne suis qu'un pauvre soldat. Pendant 15 ans que j'ai servi mon pays, et dans les derniers rangs, j'ai reçu le vent de plus d'un boulet dans la figure. J'ai traversé la Sibérie où je suis resté prisonnier. Les Russes m'ont jeté sur un kitbit comme une chose. J'ai tout souffert. Enfin, j'ai vu mourir des tas de camarades. Eh bien, vous venez de me donner froid dans mes os, ce que je n'ai jamais senti. » Dumay crut avoir ému le poète. Il l'avait flatté, chose presque impossible, car l'ambitieux ne se souvenait plus de la première fiole embaumée que les loges lui avaient cassée sur la tête. « Eh, mon brave !» dit solennellement le poète en posant sa main sur l'épaule de Dumay et trouvant drôle de faire frissonner un soldat impérial. « Cette jeune fille est tout pour vous, mais dans la société, qu'est-ce ? Rien !» En ce moment, le mandarin le plus utile à la Chine tourne l'œil en dedans et met l'Empire en deuil. Et cela vous fait-il beaucoup de chagrin ? Les Anglais tuent dans l'Inde des milliers de gens qui nous valent. Et l'on y brûle à la minute où je vous parle la femme la plus ravissante. Mais vous n'en avez pas moins déjeuné d'une tasse de café. En ce moment même, il se trouve dans Paris des mères de famille qui sont sur la paille et qui mettent un enfant au monde sans linge pour le recevoir. Et voici du thé délicieux dans une tasse de Saint-Louis. Et j'écris des vers pour dire aux Parisiennes « Charmant, charmant, divin, délicieux, cela va à l'âme ». La nature sociale, de même que la nature elle-même, est une grande oublieuse. Vous vous étonnerez dans 10 ans de votre démarche. Vous êtes dans une ville où l'on meurt, où l'on se marie, où l'on s'idolâtre dans un rendez-vous, où la jeune fille s'asphyxie, où l'homme de génie et sa caraison de thèmes gros de bienfaits humanitaires sombrent les uns à côté des autres, souvent sous le même toit, sans le savoir, en s'ignorant. Et vous venez vous demander de nous évanouir de douleur à cette question vulgaire. Une jeune fille du Havre est-elle ou n'est-elle pas ? Oh, mais vous êtes... Et vous vous dites poète, s'écria Dumay, mais vous ne sentez donc rien ? Eh, si nous éprouvions les misères ou les joies que nous chantons, nous serions usés en quelques mois, comme de vieilles bottes, dit le poète en souriant. Tenez, vous ne devez pas être venu du Havre à Paris et chez Canalis pour n'en rien rapporter. Soldat, Canalis eut la taille et le geste d'un héros d'Homère. Apprenez ceci du poète. Tout grand sentiment est un poème tellement individuel que notre meilleur ami lui-même ne s'y intéresse pas. C'est un trésor qui n'est qu'à vous, c'est... Pardon de vous interrompre, dit Dumay, qui contemplait Canalis avec horreur. Êtes-vous venu au Havre ? J'y ai passé une nuit et un jour, oui, dans le printemps de 1824, en allant à Londres. Vous êtes un homme d'honneur, reprit Dumay. Pouvez-vous me donner votre parole de ne pas connaître Mademoiselle Modeste Mignon ? Ah, voici la première fois que cela frappe mon oreille, répondit Canalis. « Oh, monsieur !» s'écria Dumay, « dans quelle ténébreuse intrigue vais-je donc mettre le pied ? Puis-je compter sur vous pour être aidé dans mes recherches ? Car on a, j'en suis sûr, abusé de votre nom. Vous auriez dû recevoir hier une lettre du Havre. »« Non, je n'ai rien reçu. »« Oh, soyez sûr que je ferai, monsieur, » dit Canalis, « tout ce que tu prendras de moi pour vous être utile. » Dumay se retira, le cœur plein d'anxiété, croyant que l'affreux Boucha s'était mis dans la peau de ce grand poète pour séduire Modeste. Tandis qu'au contraire, Boucha, spirituel et fin autant qu'un prince qui se venge, plus habile qu'un espion, fouillait la vie et les actions de Canalis en échappant par sa bêtise à tous les yeux comme un insecte qui fait son chemin dans l'aubier d'un arbre. À peine le Breton était-il sorti que la Bruyère entra dans le cabinet de son ami. Naturellement, Canalis parla de la visite de cet homme du Havre. « Ah !» dit Ernest. « Modeste Mignon, oh bien je viens exprès à cause de cette petite aventure. »« Ah bah !» s'écria Canalis. « Aurais-je donc triomphé par procureur ?»« Eh oui, voilà le nœud du drame. Mon ami, je suis aimé par la plus charmante fille du monde. » Belle à briller parmi les plus belles à Paris, du cœur et de la littérature autant qu'une Clarisse Harlow. Elle m'a vu, je lui plais, elle me croit le grand Canalis. Et ce n'est pas tout. Modeste Mignon est de haute naissance, et mon genou vient de me dire que le père, le comte de la Bastie, doit avoir quelque chose comme 6 millions. Ce père est arrivé depuis 3 jours et je viens de lui faire demander un rendez-vous à 2 heures par mon genou, qui dans son petit mot lui dit qu'il s'agit du bonheur de sa fille. Tu comprends qu'avant d'aller trouver le poète, je devais tout avouer. Dans le nombre de ces fleurs écloses au soleil de la gloire, dit emphatiquement Canalis, il s'en trouve une magnifique, portant comme l'oranger ses fruits d'or parmi les 1000 parfums de l'esprit et de la beauté réunis. Un élégant arbuste, une tendresse vraie, un bonheur entier, et il m'échappe. Canalis regarda son tapis pour ne pas laisser lire dans ses yeux. Comment, reprit-il après une pause, où il reprit son sang-froid, comment deviner à travers les senteurs enivrantes de ces jolis papiers façonnés, de ces phrases qui portent à la tête, le cœur vrai, la jeune fille, la jeune femme, chez qui l'amour prend des livrées de la flatterie, et qui nous aime pour nous, qui nous apporte la félicité. Il faudrait être un ange ou un démon, et je ne suis que l'ambitieux maître des requêtes. Ah, oh, mon ami, la gloire fait de nous un but que 1000 flèches visent. L'un de nous a dû son riche mariage à l'une des pièces hydrauliques de sa poésie, et moi, plus caressant, plus homme à femme que lui, j'aurais manqué le mien. Car l'aimes-tu, cette pauvre fille ? Dit-il en regardant la bruyère. Oh ! Fit la bruyère. Eh bien, dit le poète en prenant le bras de son ami et s'y appuyant. « Sois heureux, Ernest. Par hasard, je n'aurais pas été ingrat avec toi. Te voilà richement récompensé de ton dévouement, car je me prêterai généreusement à ton bonheur. » Canalis enrageait, mais il ne pouvait se conduire autrement, et alors il tirait parti de son malheur en s'en faisant un piédestal. Une larme mouilla les yeux du jeune référendaire. Il se jeta dans les bras de Canalis et l'embrassa. « Ah, oh, Canalis, je ne te connaissais pas du tout. Que veux-tu ? Pour faire le tour d'un monde, il faut du temps, » répondit le poète avec son emphatique ironie. « Songes-tu, dit la bruyère, à cette immense fortune ? Mon ami, ne sera-t-elle pas bien placée ? » s'écria Canalis en accompagnant son effusion d'un geste charmant. « Melchior, dit la bruyère, c'est entre nous à la vie et à la mort. » Il serra les mains du poète et le quitta brusquement. Il lui tardait de voir M. Mignon.